France Culture.
Réplique, y a-t-il un bon usage de l'intelligence artificielle avec Olivier Babot et Gauthier Besse. Gauthier Besse qui publie La vie machinale, pourquoi et comment résister à l'IA, et Olivier Babot, co-auteur avec Laurent Alexandre de Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA, sont d'accord sur un point. L'intelligence artificielle n'est pas une simple innovation, c'est une véritable révolution qui affecte tous les domaines de l'existence. Le travail, l'éducation, le soin, les relations sociales, le rapport au monde. Rien ne sera plus comme avant. Un ordre ancien s'effondre, nous sommes en train de nous reprogrammer. Avec ChatGPT et ses concurrentes, toujours plus puissantes, toujours plus performantes, la réalité dépasse la science-fiction. Et une nouvelle humanité émerge, pour le meilleur ou pour le pire, ou pour les deux. Comme beaucoup, je suis étourdi, effaré, effrayé, perplexe. Et je voudrais d'abord poser à mes deux invités cette simple question. Que se passe-t-il, Olivier Babot?
Effectivement, je crois que nous avons en commun, mais tout le monde n'y croit pas, car il y a aussi des gens qui ont l'impression que c'est quelque chose d'assez, peut-être pas banal, mais quelque chose de moins dramatique qui est en train de se passer. Nous partageons, nous sommes nombreux à partager l'idée qu'il se passe quelque chose de très important et d'assez unique dans l'histoire. Il y a eu, dans l'histoire humaine et depuis toujours, énormément de bons technologiques. Mais ces bons étaient beaucoup plus lents et moins profonds, pour dire les choses rapidement. Alors, on parle beaucoup d'IA générative, mais d'intelligence artificielle générative, mais c'est pas la seule forme. En fait, aujourd'hui est en train de se passer un mouvement qui est unique par son intensité, sa profondeur, les impacts qu'il pourra avoir, un mouvement de progression technologique qui vont provoquer non seulement une révolution civilisationnelle, mais une révolution aussi probablement prométhéenne, au sens où c'est même la définition même de ce qu'est un être humain qui va être en jeu. Je crois qu'on partage aussi l'idée que c'est plein de risques. Je suis le premier à voir ces risques, à voir les menaces pour beaucoup de choses qui sont constitutives de l'être humain. Mais la question après est celle des moyens et de types de réactions. Mais dans ce qui est en train de se passer, c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer comme étant absolument important et surtout très rapide. Ce qui est intéressant quand on s'intéresse à l'intelligence artificielle, c'est que il y a des choses, des nouveautés tous les jours. 5.3 qui est arrivé quelques jours, Claude qui a mis quelques nouveautés qui ont fait perdre 158 milliards de capitalisation boursière à des entreprises. Tous les jours, il se passe quelque chose dans ce domaine des nouveautés technologiques.
Il se passe quelque chose. Vous parlez dans votre livre, Olivier Babot, l'expression est forte, de grossesse prométhéenne. Alors, nous enfantons quoi exactement? Alors,
la vérité, c'est que nous ne le savons pas. Et je crois qu'il y a une grande part d'incertitude. Prévoir le monde à 10 ans aujourd'hui est impossible. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs et j'avoue que je ne crois pas que nous ayons la capacité d'empêcher ce qu'il va advenir. C'est un aspect important. C'est-à-dire que j'ai une approche descriptive et non pas prescriptive parce que je ne crois pas que nous puissions prescrire quoi que ce soit.
Que se passe-t-il, Gauthier Besse?
Oui, alors c'est un phénomène complexe à penser et vertigineux qui est à la fois une rupture évidente, un bond, un saut dans l'inconnu, un saut dans le vide, une fuite en avant, mais aussi une continuité parfaite de tous les grands processus de la révolution industrielle, qui est assez cohérente avec elle-même, puisqu'il s'agit d'artificialiser le vivant, de dominer la nature, et de faire de l'homme le maître et possesseur de toutes choses ici-bas, et d'ailleurs de l'univers, puisque maintenant la prochaine frontière, c'est la conquête spatiale. Et donc l'IA, l'intelligence artificielle, notamment générative, est un intensificateur et un amplificateur vertigineux de toutes les tendances lourdes de la modernité. L'obsolescence de l'homme, c'est déjà en 1957 chez Gunther Anders. Et évidemment, il en parle quand bien même l'IA n'est qu'à peine une idée ébauchée par Alan Turing et d'autres. Donc c'est vraiment quelque chose de fascinant au sens où on a l'impression de connaître, effectivement, c'est la numérisation. On baigne dedans. Voilà, moi je dis, j'ai grandi encore un peu éloigné, mais c'est vrai que ma vie coïncide avec l'avènement du net, du numérique. numérique. Donc il y a à la fois une continuité et un saut dans l'inconnu, puisqu'on pouvait considérer, par exemple, que les moteurs de recherche étaient des espèces de livres améliorés. Wikipédia, par exemple, vous voyez, c'est quelque chose de relativement inerte, au sein duquel il nous était possible, permis de naviguer plus rapidement. Là, évidemment, quand on confie, on délègue à des machines le soin de penser à notre place, il se passe un phénomène totalement inédit.
Totalement inédit, nous ne savons pas très bien ce qui nous arrive, ce qui fait qu'effectivement, il s'agit peut-être d'une continuation du grand projet moderne, élaboré par Francis Bacon et Descartes, maîtriser la nature pour améliorer le sort humain. Ce n'était pas un projet de pure puissance. C'était pas la puissance pour la puissance, c'était la puissance pour que la Terre ne soit plus une vallée de larmes. Et maintenant, il s'agit de savoir comment maîtriser notre maîtrise. Vous avez fait référence, Gauthier Besse, à Günther Anders. 1956, il publie « L'obsolescence de l'homme » pour caractériser la révolution industrielle. Et là, évidemment, cette expression prend une actualité très forte. Nous allons nous arrêter un peu à ce qu'elle veut dire, parce que dans le livre que vous avez coécrit avec Laurent Alexandre, Olivier Babeau, vous citez Yuval Noah Hariri, l'essayiste israélien, qui parle d'immigration cognitive, une immigration immense. Vous citez aussi Stéphane Mallard, c'est ça ?
Mm-hmm, oui.
Qui lui dit que les hommes vont être totalement remplacé. Donc un grand remplacement, pour le coup, a lieu aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que nous y sommes prêts ? Quelles seront les tâches les plus immédiatement affectées ? Et l'humanité, elle va faire quoi quand elle va être ainsi expropriée de ce qu'elle savait faire ? Et que des machines, semble-t-il, savent mieux faire maintenant. Olivier Babeau.
Alors, il y a plein de questions, évidemment, dans votre question. Si on fait un retour sur l'histoire des technologies, on constate que, d'abord, elles ont toujours un effet ambivalent. À la fois, elles nous augmentent et nous atrophient. Hein. C'était le cas des arcs et des lances composites, puisque les paléoanthropologues montrent qu'on a perdu beaucoup de masse musculaire dès qu'on a eu des outils pour chasser, en fait. Les outils nous permettaient, étaient une sorte de chasse médiée, en fait. Donc, depuis toujours, ces technologies nous permettent de nous épargner, pour dire rapidement, des efforts, de nous permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire naturellement, aller sur l'eau, puis après se déplacer, puis peut-être communiquer. Ces technologies, la plupart du temps, elles remplaçaient le travail physique. Donc, quand on n'a pas plus utilisé les esclaves ou la force animale, on a pu utiliser la force mécanique qui nous a doté d'une puissance extraordinaire. Et ça remplaçait la plupart du temps du travail peu qualifié. La grande nouveauté de cette prodigieuse vague technologique que nous vivons, c'est que c'est du travail extrêmement qualifié. Alors, c'est un peu un juste retour des choses. C'est vrai que les intellectuels, pendant longtemps, ont regardé les ouvriers se faire remplacer par les machines en disant « Mais écoutez, formez-vous, brave homme !» Il y a un côté Marie-Antoinette qui mange de la brioche. Quand ça vous arrive à vous en quelques mois, tout d'un coup, vous comprenez que c'est beaucoup plus impliquant et vous regardez la chose différemment. Car pour la première fois, c'est des gens extrêmement compétents, c'est des médecins qui ont fait 10, 15 ans d'études, qui sont attaqués dans leur expertise, puisque ces nouvelles technologies ont cette caractéristique de pouvoir être des technologies de traitement de l'information. Le mot « intelligence » est un peu difficile en français parce qu'il est beaucoup plus profond que le mot intelligence anglo-saxon. Dans intelligence, c'est celui de CIA, hein, c'est le traitement de l'information, hein, c'est un traitement cognitif. Cette intelligence, elle est capable de remplacer effectivement des tâches, demain des métiers. Et la réalité, c'est qu'il y a des gens qui expliquent qu'il y aura plein de métiers qui vont apparaître et qu'il y aura toujours besoin de travail humain. D'autres qui expliquent, comme Elon Musk il y a quelques temps, qui a dit dans 5 ans, travailler sera un hobby. Tout simplement. Comment faire la part des choses entre ces prévisions extrêmement différentes ? Je crois qu'on est juste certain que les choses ont beaucoup changé, qu'on est dans un cadre de destruction créatrice schumpeterienne relativement classique, à cela près que son intensité, son rythme est sans pareil, n'a jamais été vu avant.
Mais qu'est-ce que ça détruit exactement ? Quels sont les métiers les plus directement visés par l'intelligence artificielle ? Visés, c'est-à-dire remplacés ?
Alors, il peut y avoir d'abord des moments dans la vie, parce qu'aujourd'hui, une des inquiétudes, hein, c'est qu'on a de plus en plus de mal à embaucher des juniors. Pourquoi ? Parce qu'un junior a plus de mal à avoir une valeur ajoutée face à la production de la machine. La plupart du temps, quand vous arrivez dans un métier, mettons consultant, mettons avocat, vous faites des travaux de rédaction, de synthèse, de traitement de données, qui sont les premiers à être remplacés par les intelligences artificielles. Les compétences de médecine, par exemple, un diagnostic, c'est un algorithme, en fait. Hein, aussi, alors, si, alors, si, alors. Et c'est là que dès à présent, à l'heure où nous parlons, les machines sont beaucoup plus performantes, elles font moins d'erreurs que les gens qui ont fait énormément d'études.
Alors, est-ce que viendra le jour où on va consulter des machines? On prendra rendez-vous directement avec des machines?
Très probablement. La question, c'est effectivement, est-ce qu'il y aura toujours besoin de quelqu'un pour tamponner, comme aujourd'hui, on a un radiologue qui va tamponner les analyses qui font en fait faites par la machine, hein, ou est-ce que on va pouvoir faire passer un processus qui sera entièrement machinal? Ça se pose aussi pour la justice. On avait écrit avec Laurent Alexandre il y a 10 ans dans les Échos un article qui disait confions la justice à l'intelligence artificielle. À l'époque, on n'avait pas les IA pour ça. Aujourd'hui, je pense que le juge doit de plus en plus s'aider d'une intelligence artificielle. Mais on aura quand même besoin d'un juge pour prendre la responsabilité, en fait, pour décider. Donc cette part de la décision, c'est peut-être une part où l'humanité va devoir rester pendant longtemps.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je pense que l'expression destruction créatrice est un peu une illusion, un mythe, ou en tout cas ne révèle pas les choses telles qu'elles se passent. La question, c'est quel est l'intérêt du travail humain? Est-ce que c'est un jeu à somme nulle? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on détruit des métiers laborieux pour produire des métiers intéressants, plus respectueux de la dignité humaine? Ça a pu arriver, hein, bien sûr. Je suis pas sûr que ce soit ce à quoi on assiste aujourd'hui. En l'occurrence, par exemple, la destruction des métiers artisanaux pour la création de ce qui a pu être appelé des bulky jobs, donc des métiers dénués de sens, qui découragent les gens, qui provoquent un épuisement professionnel. On connaît bien ça. Je ne sais pas si on a vraiment progressé. En tout cas, il y a aujourd'hui un malaise par rapport au sens du travail qui s'exprime de beaucoup de façons. Donc je ne suis pas sûr qu'en éloignant les gens de la réalité concrète et de la finalité de leur travail, on est beaucoup progressé. Donc, sans parler de fantasmer le travail paysan ou le travail artisanal, ce sont des corps de métier où le travail a plus de sens. Et moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons besoin, de plus de gens qui travaillent la terre, qui redécouvrent les savoir-faire traditionnels plutôt que délégués toujours à la machine. Mais dans votre livre, ce qui est très intéressant, c'est que vous esquissez quelques listes de métiers à venir, de métiers probables. Mais tous ces métiers, et d'ailleurs vous le reconnaissez, sont liés à l'IA. C'est-à-dire, je ne me tenterai pas, je ne lirai pas, puisque ce sont que des anglicismes, et nous sommes sur France Culture, et je ne voudrais pas massacrer la langue de Shakespeare, mais enfin, c'est quand même prodigieux.
La langue de Shakespeare, oui, non, bien sûr, c'est vrai, on massacre de langue avec le blobby.
Très juste. La destruction est avéré pour des métiers dont certains sont intéressants, et rendent compte vraiment d'une expérience humaine immémoriale. Et en revanche, la création est très incertaine, puisque tous les métiers que vous évoquez sont eux-mêmes possiblement remplaçables. Et il y a 10 ans, on disait « faites du code informatique », et aujourd'hui, les IA codent infiniment mieux que les meilleurs codeurs.
Oui, alors justement, moi, je n'aurais pas votre scrupule, Gauthier Bess. Destruction créatrice, c'est en effet l'expression de Schumpeter, reprise aujourd'hui et mathématisée par Philippe Aguillon, prix Nobel d'économie. Alors, destruction, on le voit bien, des métiers disparaissent. Qu'est-ce que ça crée? Quand j'étais jeune, il y a des lustres, il y avait les beaux métiers artisanaux qui existaient, etc. Mais quand on faisait des études, les parents rêvaient que vous soyez avocat, architecte, médecin, professeur. On pouvait rêver encore d'être professeur, professeur dans le secondaire.
C'est un beau métier.
Oui, c'est un beau métier, effectivement. Aujourd'hui, vous dressez cette liste, en effet, Olivier Babeau, et j'y vais. Je me jette à l'eau, à la water. Prompt engineer, IA éthiciste, IA product manager, decision architect, model tuner, feedback deep analyst, cognitive translator, truthfulness auditor, embedding specialist, agent coach. Et le prompt engineer, très important, c'est celui qui sait parler aux intelligences artificielles et stimuler les contraintes. Il y a tout un art du prompt. Mais ça doit être assez terrible. C'est des parents élèvent des enfants et tout d'un coup, leur fils ou leur fille annonce « Bon, moi, finalement, je crois que je vais être prompt engineer. »
Pardonnez-moi, il y a mieux. Vous avez une autre liste, page 73. Designer de bébés, neuro-hacker, terraformateur de Mars, neuro-éducateur et, le meilleur, psychologue pour IA. Là, j'avoue que les bras m'en tombent si c'est ça que mes enfants...
On s'est un peu amusé parce qu'en réalité, j'imagine bien. Pas la liste, évidemment.
C'est liste à la...
Si, à 25 ans, on avait dit aux gens, l'un des postes qui va employer le plus et qui va être le plus couru, c'est community manager. Les gens ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, community manager? Mais pourtant, ça existe vraiment aujourd'hui, évidemment. On sait tous à quoi ça correspond. Alors, s'est amusé. Alors, il y a aussi des choses comme gestionnaire de funérailles numériques. Figurez-vous que ça commence à ça existe. Il y a plein de choses qui apparaissent. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il va y avoir, évidemment, d'autres choses qui vont apparaître, comme ça a été le cas avec toutes les destructions créatrices. L'une des questions, c'est malheureusement le type de compétences qu'il faut pour ces nouveaux emplois. Vous avez dit ces compétences, vous avez raison, qui sont de plus en plus exigeantes du point de vue de la formation, c'est-à-dire qui demandent beaucoup de culture générale, beaucoup de connaissances transversales, de connaissances techniques, d'usage d'outils qui évoluent tout le temps. Donc c'est une des grandes difficultés actuellement, sans aucun doute. Ça sera difficile d'arriver à amener tout le monde à ce niveau-là. Et c'est un des problèmes de cette destruction créatrice. Jusque-là, elle était créatrice d'emplois qui n'étaient pas tellement différents en compétences qu'ils soient inaccessible. Vous aviez autrefois, vous avez le maréchal Ferrand qui a été remplacé par le garagiste. Bon, en plus, ils avaient 25 ans, donc la génération d'après, elle pouvait se former. Le gestionnaire de réseau d'eau a remplacé le porteur d'eau. Ici, le risque, c'est que l'exponentiel fasse que la marche passée soit beaucoup plus haute.
Mais alors justement, en tout cas, un certain nombre de métiers vont se périmer, vont être remplacés. La destruction créatrice n'empêchera pas que de plus en plus de gens puisse être mis au chômage. Et là, c'est quand même très intéressant. Gauthier Besse, dans votre livre, vous citez un érudit du XIVe siècle, Raoul de Presles, « L'oisiveté sans lettres ni science et sépulture d'hommes vifs ». Et ça m'a beaucoup intéressé, et j'ai pensé à Hannah Arendt, « Condition de l'homme moderne », Günther Anders, 1956, Hannah Arendt, 1960. Et c'est le monde dans lequel nous entrons, l'obsolescence de l'homme. Parce qu'elle dit, aujourd'hui, c'est une société de travailleurs que l'on va délivrer des chaînes du travail, et cette société ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté. Dans cette société qui est égalitaire, c'est ainsi que le travail fait vivre ensemble les hommes. Il ne reste plus de classe, plus d'aristocratie politique ou spirituelle qui puisse provoquer une restauration des autres facultés de l'homme. Et elle termine son raisonnement ainsi. Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire. Est-ce que c'est vers ça qu'on va ?
Oui, alors, il y a beaucoup d'équivoques autour du travail et de l'influence des IA là-dessus. On le dit aux gens, on va vous libérer des corvées, des tâches pénibles, de l'exécution pure. Et ce qui se passe, c'est qu'on les libère pas seulement de l'exécution, mais du travail. Là, il y a encore Anthropique, que vous connaissez mieux que moi, qui vient de publier un rapport évoquant le risque sérieux de chômage de masse.
J'estime à 40%.
Voilà, aucun métier n'est épargné. Même professeur, je n'ai pas de doute qu'à la vitesse où vont les choses, et peut-être même dès à présent, un robot équipé d'une IA puisse être un meilleur professeur que moi, un meilleur pédagogue. Effectivement, nous partageons vraiment l'idée qu'il n'y a pas de quoi se rassurer. Il est à la mode chez certains auteurs de dire « ChatGPT n'est qu'un perroquet », etc. Il ne pense pas, il ne comprend pas, c'est de moins en moins vrai. Donc là-dessus, nous sommes bien d'accord. Dans la destruction créatrice, voilà, il y a une dévaluation du travail, ou en tout cas un risque de dévaluation du travail. Vous citiez « Community Manager ». Je pense que ça fait partie de ce que David Graeber a appelé des métiers dénués de sens, des bullshit jobs, pardon, des métiers à la con, c'est traduit de différentes manières.
Bullshit,
voilà. Oui. De sorte que les gens qui font ça, en réalité, n'ont aucune utilité sociale, pardon de le dire un peu brutalement. C'est-à-dire, ils alimentent la machine économique, comme demain, les métiers que vous esquissez serviront à alimenter la machine de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Le travail a une autre finalité, une amélioration du sort humain, un meilleur partage des richesses, etc. Or, l'IA, c'est vraiment l'accélération du capitalisme dans ce qu'il a de plus mortifère, à la fois pour les sociétés et évidemment, ça c'est vraiment à mon avis le grand oublié de votre livre, la destruction créatrice, c'est d'abord la destruction d'un monde vivant et la création d'un monde artificiel sans vie qui implique la terraformation de Mars, effectivement, c'est-à-dire l'exil, puisqu'une fois que nous aurons détruit les conditions d'habitabilité de notre Terre, eh bien nous serons des exilés dans des bases spatiales lointaines et sans vie.
Et en même temps, c'est ce que dit Hannah Arendt, c'est-à-dire on entre dans une société des loisirs, oui, à une heure où l'osium, le loisir, des anciens, scolé d'ailleurs, ça veut dire loisir, oui, n'a plus aucun sens. C'est une autre manière d'aborder le problème. Mais que répondez-vous à Gauthier Bess, Olivier Babeau ?
Justement, je voulais parler de dosium. Il n'est pas impossible que les technologies fassent disparaître le travail. Moi, je ne pense pas que ça soit un drame. Finalement, nous réalisons le programme antique. Quand Cicéron parle du thème d'humanitas, hein, on est vraiment humain que quand on possède ses savoirs. Évidemment que seul un riche romain pouvait prendre le temps de développer, puisqu'il avait des esclaves qui travaillaient pour lui. Aujourd'hui, on a des esclaves mécaniques de plus en plus. Et en effet, notre objectif désirable, ce serait tout ce que nous livrions à l'osium, c'est-à-dire au loisir studieux. Alors c'est un thème que j'avais développé dans un livre qui s'appelait La tyrannie du divertissement, où je regrettais le fait que dans l'utilisation de notre loisir, et nous vivons de plus en plus des vies de loisirs, nous utilisions de plus en plus pour le divertissement et moins pour le loisir pour les autres, le loisir social et puis le loisir pour soi. C'est d'ailleurs John Maynard Keynes, l'économiste qui avait une préscience extraordinaire dans les années 30, dans un petit texte très amusant, il écrit « Nous allons vers une société des loisirs », déjà c'était quand même bien vu dans les années 30, parce que la société des loisirs n'était pas évidente, et dit on ne peut pas voir arriver sans effroi cette société. Pourquoi ? Parce que occuper son temps libre, c'est extrêmement difficile. Il n'est pas impossible que notre vrai enjeu à terme, ça soit de réapprendre cette liberté. On va être libéré des bullshit jobs comme des autres. Il va certes falloir repenser les questions de la répartition des ressources, de toute façon, quand les robots fabriqueront des robots, mais ça peut aussi nous libérer, et c'est un défi différent, savoir réoccuper notre temps libre pour notre progression intellectuelle, qui est aussi intellectuelle, physique, mytho-spirituelle, et celle qui nous fait grandir.
Est-ce qu'avec ChatGPT, on peut espérer cette réhabilitation du loisir studieux ? Je n'en suis pas sûr. Et quand je lis le livre que vous avez coécrit avec Laurent Alexandre, Olivier Babeau, je m'inquiète un peu parce que vous en voulez en effet à l'enseignement traditionnel, au maître qui nous introduisait quand même dans le monde de la culture, en disant de toute façon, le maître c'est fini, les étudiants auront dans leur poche des professeurs de tout à temps plein. Quant aux figures de l'autorité, ça n'a plus aucun sens, les professeurs seront plutôt des fulgurants, des accompagnateurs, etc. Et d'autant plus que le monde va changer tellement qu'on ne va pas s'accrocher à faire de longues études. Donc, un monde en perpétuelle mobilité, qu'est-ce que ça veut dire ? Et quelle place y a-t-il dans un monde comme celui-là pour effectivement le loisir studieux, Gauthier Bess.
Oui, l'expérience, il n'est qu'à observer. Le temps que les machines nous ont libéré, c'est indéniable. Il y a eu des RTT. Alors, il y a aussi des effets contre-productifs, puisque la société moderne a inventé, par exemple, l'embouteillage. Et donc, ce qui fait que nous allons toujours plus vite, mais comme les distances se sont éclatées, nous passons toujours autant de temps dans les transports. Je ne suis pas sûr que nos concitoyens éprouvent ce sentiment de la liberté dans le temps. Bien sûr, il y a des vacances, etc. Mais comme la pression au travail s'est aussi intensifiée, alors ça dépend quel est le point de départ, la comparaison. Évidemment, si on compare avec Germinal de Zola, oui, on peut dire que la condition du travail en Occident s'est améliorée, mais il n'est pas sûr que sur les dernières décennies, ce soit très clair. En tout cas, par exemple, les professeurs, quand vous parlez avec des collègues du lycée, je crois que c'est pareil à l'université, ils vous disent tous, qui ont un peu d'expérience, que le travail s'est dégradé avec l'intrusion, l'envahissement des techniques numériques, dont on commence enfin à mesurer les désastres et dont on va peut-être essayer de libérer non seulement les élèves, mais les professeurs.
Oui, mais alors justement, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que on a cru, me semble-t-il, avoir trouvé un peu la panacée avec le numérique à l'école. Des manuels même, en Ile-de-France, je crois, ont été remplacés par des tablettes numériques.
Et les tableaux par des écrans.
Et les tableaux par des écrans. Oui. Et deux auteurs, Philippe Biou et Karine Movilly, s'en sont inquiétés récemment dans un livre intitulé « Le désastre de l'école numérique ». Leur première inquiétude, c'est la fin de la promotion de l'effort face au découragement des élèves, au décrochage, au déficit d'attention. La réponse de l'école numérique est de rendre l'école plus ludique, l'enseignement plus fun, les profs plus sympas, la tendance de fond et la gamification. Bon, j'ai l'impression, Olivier Babeau, qu'on réitère la même erreur tragique avec l'intelligence artificielle qui doit être omniprésente dans les poches de chacun, etc. Parce que l'intelligence artificielle décharge l'élève de tous les efforts. Elle corrigera ses fautes d'orthographe. Et puis après tout, pourquoi s'inquiéter de l'orthographe, etc. Donc, vous dites, l'enjeu, c'est de sortir d'une société de divertissement, mais avec, justement, cette expropriation de l'intelligence, est-ce que nous n'entrons pas dans une époque de l'abrutissement? Est-ce que ces machines de plus en plus intelligentes ne vont pas rendre les gens de plus en plus bêtes au moment, justement, où ils devraient avoir accès, avec le temps qui leur sera donné, à la beauté du monde?
Oui, et puis vous avez dénoncé dans un livre excellent la tyrannie de la paresse, alors du divertissement, oui, et de la paresse.
Et l'autre s'appelait l'ère de la flemme.
L'ère de la flemme, merci. Oui. Or, c'est exactement ce à quoi les gens utilisent l'IA, pour évidemment ne plus faire d'efforts par eux-mêmes. Donc je suis étonné par ce contraste. Vous avez quand même beaucoup de bienveillance et d'optimisme, semble-t-il, vis-à-vis de l'IA. La frontière entre la description et la prescription n'est pas toujours si claire. Je pourrais citer quelques passages de votre livre. En tout cas, chez Laurent Alexandre, je pense qu'il y a quand même un engagement beaucoup plus fort que la simple constat froid. Mais il me semble qu'il y a là une contradiction fondamentale.
Olivier Babeau.
Oui. D'abord, sur la description et la prescription, je parlais de l'évolution de la place des technologies dans le monde. On ne peut pas empêcher la course à l'IA, puisque c'est une course à la domination mondiale. C'était ça mon idée. Alors ensuite, nous ne sommes pas, avec Laurent Alexandre, nous n'avons pas un point de vue totalement irénique sur l'intelligence artificielle. On est très très conscient des défis, des difficultés, des dangers même qu'elle pose. Nous sommes dans une époque qui est difficile de sa facilité. Pourquoi ? Parce que nos enfants ont en permanence, effectivement, le plaisir, le divertissement dans leur poche, et maintenant, de plus en plus, même quand ils travailleront, une machine qui va proposer de faire les efforts à leur place. Le risque avec l'intelligence artificielle, et c'est là où peut-être nous sommes un peu résignés, hein, pas cyniques, mais résignés, ça sera le risque d'une polarisation très importante de la population. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez effectivement, comme il a très bien montré une analyse du MIT qui est devenue célèbre, un effet terrible de l'utilisation de ChatGPT sur les capacités réelles d'apprentissage. Moi, je prends toujours cette comparaison-là, c'est un peu comme si vous aviez rêvé votre passage à la salle de sport. Vous n'avez rien soulevé, vous n'avez pas soulevé, vous avez rêvé que vous avez soulevé de la fonte, mais en fait, pas du tout. Vous étiez sédentaire sur le canapé, et au bout d'un moment apparaît un décalage entre ce que vous pensez savoir faire et ce que vous êtes vraiment. Physiquement, ça peut être terrible, on comprend bien intellectuellement la conséquence que ça a. Il y a un autre mode d'usage de l'intelligence artificielle, d'ailleurs, il y a un mode qui s'appelle étudier et apprendre. C'est le mode où il ne va évidemment pas vous donner la réponse, il va vous guider comme le ferait un professeur particulier. Et vous savez que les études sur la pédagogie montrent que ce qui est le plus efficace dans l'enseignement, c'est un prof, un élève. Et évidemment, on cite le cas d'Aristote avec Alexandre le Grand. Mais pour que Alexandre le Grand ait la chance d'avoir Aristote, il fallait qu'il soit le fils du roi de Macédoine. Et il y avait un seul Alexandre et un seul Aristote. De plus en plus, nous pourrons avoir dans notre poche des i-Aristote, pardon, du jeu de mots un peu facile. Mais en tout cas, un professeur, et ça ne va pas remplacer totalement le professeur humain, j'en suis un depuis 25 ans tout de même. Donc moi, je les aime aussi, les professeurs. Ça ne va pas les remplacer totalement, mais ça va faire évoluer ce rôle de rapport à un apprentissage qui va se faire aussi avec une machine.
Oui, mais alors justement, Aristote Alexandre, oui, ça a beaucoup marqué le général de Gaulle, puisqu'il a dit la culture générale et l'école du commandement. Oui. Mais que reste-t-il à l'ère de l'IA? Que reste-t-il quand il ne faut plus faire d'études, mais transformer son rapport au savoir, de la culture générale, puisque le monde est sans cesse en train de changer, qu'il faut s'adapter au monde comme il va? Et donc l'idée du professeur, parce que là encore je citerai Hannah Arendt, la crise de l'éducation, 1960, hein, ça aussi, elle dit la responsabilité du monde dans lequel l'éducation prend la forme de l'autorité. Les adultes, face à l'enfant qui est un nouveau venu dans le monde, sont responsables du monde. Ils l'introduisent dans ce monde. Et ce monde est plus ancien qu'eux. Mmh. Il est plus ancien. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils pourront développer leur capacité révolutionnaire, leur capacité de commencement. Donc, et pour cela, l'école doit être conservatrice. Or, Olivier Babeau, vous dites que le grand défaut de l'école telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, notamment de l'UCL Université, c'est d'être conservatrice et de ne pas justement s'adapter à cette évolution si rapide, si accélérée que nous connaissons, et vous en venez à conseiller aux jeunes gens aujourd'hui, plutôt que de perdre le temps sur un banc d'université, à fonder des start-up. Donc, il y a quand même un problème, Aristote, Alexandre, De Gaulle, la culture générale.
Alors, on reproche aux institutions d'être conservatrices, mais surtout dans leur méthode et par une inertie organisationnelle, et malheureusement, de ne plus faire assez cette transmission, car on donne aussi à la fin le conseil très important de lire des livres en papier, beaucoup, parce que ce qu'on explique, c'est que le niveau pour être capable de parler, d'être utile face aux machines, va être de plus en plus élevé. Il va falloir avoir un regard, justement, de culture générale, de compréhension transdisciplinaire, de prise de recul. Effectivement, la culture, c'est l'histoire du passé, l'histoire des idées, l'histoire des événements, l'histoire des œuvres. Et tout ça est absolument essentiel, sans quoi vous vivez dans une sorte de présent éternel et vous ne serez capable face à la machine que, au mieux, de faire copier-coller. Donc, ce qu'on explique, c'est qu'au contraire, il va falloir être beaucoup plus exigeant. C'est pourquoi on est un peu pessimiste en réalité, même si c'est plutôt écrit entre les lignes. En réalité, tout le monde...
Très entre les lignes.
Mais tout le monde dans une génération n'arrivera pas à ce niveau, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que les autres, le risque c'est le divertissement, le risque c'est évidemment la dépendance face aux écrans. On peut essayer de limiter, on peut essayer de transmettre d'autres habitus face aux technologies, mais on n'a pas trop d'illusions sur le fait qu'on y arrivera réellement.
Mais c'est quand même curieux. On nous vend un progrès, on nous impose un progrès comme seul horizon, dont ses propriétaires, ses promoteurs, ceux qui s'enrichissent à milliards sur la naïveté des pauvres technophiles que nous sommes pour beaucoup, et sur la paresse qui est un vice quand même assez commun, ces gens-là sont les premiers à dénoncer à grand renfort de tribunes, de déclarations fracassantes, avec une certaine hypocrisie, c'est évident, les dangers du numérique. Mais tous, et à commencer par Elon Musk, qui à la fois dit « Oh là là, nous allons détruire le travail », parfois il a même des accents écolos, et en même temps, il continue avec Neuralink à vouloir nous implémenter des puces électroniques dans le cerveau. Donc même les gens qui tirent profit de cela, tirent la sonnette d'alarme. Ils tirent profit tout en tirant la sonnette d'alarme. C'est quand même étonnant. Et c'est là, à mon avis, nous n'avons pas encore abordé la question qui est la question décisive qui fâche et que personne n'assume. C'est, est-ce vraiment une fatalité? Et moi, je ne crois pas en la tragédie de l'histoire. Je crois qu'il est toujours possible de dire non. Vous citiez le général de Gaulle. Pardon, je ne veux pas faire de rapprochement historique douteux, mais enfin tout de même. Oui, bien sûr, il y avait une domination évidente, industrielle, d'une puissance, et nous sommes un petit peu, me semble-t-il, dans une situation analogique, puisque on nous dit rien ne peut résister à cette puissance, à cette vague, en plus nous y sommes intéressés, puisqu'effectivement ça nous facilite la vie superficiellement. Mais non, interrogeons-nous. Enfin, la démocratie, c'est quand même l'art de délibérer sur les finalités et les moyens. Donc, ce serait bon qu'on s'interroge. Et je crois fondamentalement qu'il ne faut pas se laisser aller au bluff technologique, à l'esbrouf, qui consiste à dire il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'alternative. Eh bien, si, il y a plein, et heureusement, de solutions et d'autres voies sociales et individuelles.
Nous réfléchirons donc aux alternatives, sans tomber dans la réductio ad aeternam. Il y a peut-être des alternatives. D'un autre côté, on n'a jamais rien désinventé. Peggy disait déjà, c'est extraordinaire, du métro. Le métro qui rendrait trop de services. Alors, vous imaginez le métro, le portable. Qui pense désinventer le portable? Il y a quelques solibrius, quelques illuminés, quelques handicapés qui n'ont pas de portable. Mais le portable rend tellement de services que, voilà, il est devenu universel et on en a plusieurs, etc.
Oui, mais il a servi aussi. Et il est un maître arrogant là où il nous faudrait des serviteurs humbles, comme disait Ivan Illich. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier le coût écologique et social de ces inventions. Donc nous avons un droit d'inventaire. Et ce droit nous est refusé par la marche des choses, par la tyrannie du fait accompli, et aussi par tous ceux qui disent « soyons réalistes, investissons à fond dans l'IA, puisque vous ne survivrez pas sans ». Mais si, enfin, excusez-moi, quand je vois mes enfants gambader, je me dis « mais ils se suffisent à eux-mêmes, je ne désire pas qu'ils soient augmentés de quelque technologie que ce soit ». Et le génie humain, pardonnez-moi, enfin, nous avons bâti des cathédrales, nous avons écrit l'Odyssée, nous avons écrit la 5e symphonie, sans l'assistance de prothèses « made in China », avec l'exploitation minière absolument désastreuse au Congo ou ailleurs. On a su faire sans et nous saurons continuer à faire sans.
Alors justement, ça voudrait dire se déconnecter, alors que vous dites, Olivier Babot, dans votre livre, non, il faut savoir se connecter, c'est une question de vie ou de mort. Donc, que pensez-vous d'un tel appel à la déconnexion? Quel sens peut-il avoir?
Oui, c'est là que je crois que là j'ai un désaccord avec Gauthier.
Donc, oui, on peut le dire.
To agree to disagree. Effectivement. Et là encore, c'est pas par irénisme ou par technophilie spécialement. Moi, je suis comme vous, j'adore le feu de bois et la campagne et les choses simples. Je suis d'abord conscient des progrès extraordinaires que permet cette technologie. Vous savez qu'on est probablement à la veille de progrès en matière médicale absolument incroyables. AlphaFold de Google, en 16 jours, a déterminé la structure de 200 millions de protéines. Jusque-là, il fallait 5 ans de thésard pour une protéine. Donc, c'est 1 milliard d'années de chercheurs qui a été économisé. On peut espérer vaincre le cancer, on peut espérer, et ça posera un problème d'ailleurs d'équilibre de nos comptes sociaux, mais augmenter extraordinairement l'espérance de vie. Donc il y a des choses objectives qui sont positives, dont on n'a pas tellement envie de se priver. J'ai pas envie de retourner, moi, personnellement, à la médecine 19e siècle. C'est ce que j'appelle votre positionnement, en toute bienveillance, hein, mais le positionnement un peu amiche. Voilà, les amiches ont expliqué, voilà, la technologie du 19e siècle, c'est la bonne, on va pas aller au-delà. On va refuser tout ce qui est, parce que ça dégrade.
Si je puis me permettre une assise, leur critère, c'est qu'est-ce qui est bon pour la communauté, ouais, la vie relationnelle. Et c'est un critère intéressant.
Alors, moi, je crois d'abord qu'il y a d'autres avantages et qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, même les amis finissent par avoir des téléphones, etc. Le téléphone, pareil, il était critiqué. Est-ce que c'est, je sais pas, c'est pas Proust ou quelqu'un d'autre qui disait, oh, formidable invention, on vous sonne, vous accourez. C'était Degas, pardon. Donc, voilà,
c'est très intelligent.
Toutes les nouvelles technologies ont toujours été vues, évidemment, avec un petit peu de prise de recul. Mais surtout, mon meilleur argument, c'est que, regardez, aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous balader dans la rue à cheval. C'est interdit, alors que c'était la norme pendant très longtemps. Pourquoi ? Parce que tout le monde a des voitures. Au bout d'un moment, vous êtes obligé de suivre ce que font les autres. Or, ce que font les autres, c'est l'ensemble du monde, car nous appartenons à une planète où nous ne sommes pas seuls en France ni en Europe. Gens-là sont lancés dans une course incroyable à la technologie qui, comme je l'ai dit, est la course à la domination.
On ne peut pas se promener à cheval. Et ça serait pas mal d'interdire dans les rues le portable, non ? Les portables à vélo, c'est dangereux.
Pardon, mais quels parents d'adolescents?
Dans les rues de New York, on n'a pas le droit de fumer, pourquoi pas? C'est un choix collectif, choix collectif possible.
Mais nous sommes dans une dissonance folle. Quel parent d'adolescent n'est pas affolé par le nombre d'heures pendant lesquelles son enfant scrolle sans aucun intérêt dans la plupart des cas? Parce qu'on nous dit, il y a un TikTok qui incite à lire des livres. D'accord, mais enfin, on comprend bien que c'est ridicule. Et vous-même, vous le reconnaissez, que ceux qui utiliseront ChatGPT ou son concurrent comme un nid Aristote, sont une infime minorité de privilégiés et que la plupart, si je puis me permettre un autre jeu de mots douteux, subiront l'emprise numérique comme un Attila qui lui brûlera tout sur son passage et qui les laissera dans une pauvreté de monde absolument vertigineuse, puisque l'écran fait écran, il est là pour ça, et évidemment, à la fois par les infrastructures qu'il implique, dont on, encore une fois, il faut revenir, hein, nous sommes des terrestres, c'est-à-dire que rien de ce que nous vivons n'est indépendant des conditions d'existence. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, etc. Et les machines que nous utilisons dépendent d'un technosystème absolument énorme qui est caché, soigneusement caché, évidemment. Et donc, il faut reprendre conscience de ça. Donc, moi, j'appelle non pas à vivre en extraterrestre, comme nous y incite Elon Musk et ses petits copains, mais au contraire, à redevenir des terrestres. Et là, nous avons des espaces et des moments d'émerveillement infinis.
Je comprends très bien ce que vous dites. Gauthier Besse, vous avez dirigé la revue Limite. Très beau titre pour une revue écologique. Limite. Justement, la limite pour une humanité prométhéenne, elle était là pour être franchie. Et tout d'un coup, maintenant, il faut savoir fixer des limites. Mais justement, cette exigence se pose et en même temps, notre impuissance se voit. Nous devons fixer des limites, mais nous ne pouvons pas le faire. Jamais nous ne désinventerons le portable. Comment faire même pour empêcher l'invasion de l'intelligence artificielle à l'école? Comment faire?
Mais en fait, peut-être que nous y serons contraints tout simplement pour des réalités physiques. Hein. On peut penser par exemple aux travaux de Jean-Marc Jancovici et bien d'autres qui disent à un moment on ne pourra pas infiniment puiser dans les ressources de la Terre qui restent limitées. Les flux physiques ne sont pas inépuisables. Et encore une fois, beaucoup de gens commencent à dire l'industrie minière spatiale, ça va être indispensable pour alimenter une méga-machine toujours plus vorace. Donc, c'est possible si nous le décidons. Nous disons, nous ne le pouvons pas, mais en réalité, nous ne le voulons pas. Il n'y a aucune volonté, parce que les puissants le sont, puissants, et ils nous font croire qu'ils nous enferment dans une cage dorée, en silicium, dotée de plein d'écrans tout à fait hypnotisants, quand bien même nous en éprouvons les dangers, les limites, et encore une fois, quel parent ne se plaint pas de l'emprise, et quel citoyen, quel adulte? On est tous, et je suis le premier à être victime de ce que je dénonce comme la vie machinale. Je n'ai pas de smartphone, parce que, comme Julien Julien Gris dans son temps avec la télévision, parce que je sais que je serai hypnotisé. Vous voyez, on préfère le rythme de plus en plus des robots. Il m'est arrivé, je vous fais cette confession, Alain Finkielkraut, de vous écouter en version accélérée. Parce que je trouve que parfois, vous voyez, les humains sont trop lents, mais c'est terrible.
Vous rendez compte, l'émission est trop lente.
Je n'ai plus la patience de vous écouter.
Vous allez me dire ça en face.
Mais, ben, je le confesse, je l'avoue, j'en ai honte. Mais c'est la vérité. Et nous sommes très nombreux à trouver que les humains sont de plus en plus lents, laborieux, cherchent leurs mots, etc. Et donc, nous méprisons de plus en plus, en fait, notre humanité. Et vous le dites très bien, dans des formules décisives. Effectivement, les humains sont largués, dépassés, mais jusqu'où ? Et vous évoquiez, nous enfantons des robots. La réalité, c'est que nous fabriquons toujours plus de robots et qu'en revanche, nous enfantons de moins en moins d'enfants.
Oui, alors c'est vrai, mais justement, vous allez loin dans votre livre, ouais. Olivier Babot. Ouais. C'est-à-dire parmi les nouveaux droits que vous voulez conquérir, il y a un droit à la neuro-augmentation. Ce qui prouve bien que nous sommes à l'aube de quelque chose. Et il y a une personne que vous citez à plusieurs reprises comme un leitmotiv, Alexandre Vang.
Oui.
Alors, qui est cet Alexandre Vang et qu'est-ce que ce serait la neuroaugmentation?
Alexander Wang, et son prénom s'écrit DR, Alexander, c'est DR, étrange, mais c'est comme ça que ça s'écrit, est un jeune milliardaire du web, extrêmement doué, qui a annoncé, c'est pour ça qu'on le cite à plusieurs reprises, qui a annoncé qu'il ne voulait pas avoir d'enfant tout de suite, car il voulait attendre que les technologies de neuroaugmentation soient suffisamment au point pour qu'il puisse en faire bénéficier ses futurs enfants. Alors, c'est vrai qu'il est très jeune, mais il l'a dit de façon très, très normale, très exprimée. Et là, c'est là un point où il faut vraiment insister sur le fait que Laurent Alexandre et moi, on ne confond pas ce qu'on souhaite et ce qu'on prévoit. Ce qu'on prévoit, et ce que certainement pas ce qu'on souhaite, c'est que nous allons vers une forme d'eugénisme naturel et imposé. Et ça fait le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure. Si l'IA va se développer, c'est parce que des grands empires sont en concurrence pour la domination du monde et que ces technologies donnent la puissance économique et militaire. On ne pourra pas empêcher, l'Europe est spectatrice complètement de tout ce qui est en train de se passer, et ça va changer les conditions de vie. Probablement, et d'autres civilisations que les nôtres ont beaucoup moins de scrupules dans ce qu'on peut appeler l'eugénisme, puisque finalement c'est bien ça que ça
fonctionne. Notamment la Chine.
Notamment la Chine, où vous avez déjà des cliniques, des centres de recherche qui veulent produire des gens à 170 de QI. Vous avez aux États-Unis des cliniques qui vous proposent de l'eugénisme pour vos enfants. Ça coûte quelques dizaines de milliers de dollars, où ils prétendent pouvoir vous permettre d'avoir des enfants, des embryons sélectionnés. C'est quelque chose qui va finir par s'imposer. Est-ce que c'est possible scientifiquement, médicalement? Malheureusement, oui. On va pouvoir de mieux en mieux manipuler le vivant.
Donc on pourra augmenter les neurones des gens.
Alors ça sera
jusqu'à
un second temps.
Je pense qu'il est trop tard pour moi.
Mais pourquoi pas? Pourquoi c'est possible?
Vous êtes immortel, Alain. Donc
oui, le futurologue, le professeur, je crois, MIT, Ray Kurzweil a expliqué si vous pouvez survivre aux 5 prochaines années, il est probable que vous viviez 500 ans. Donc moi j'ai l'intention d'essayer. On verra bien. Si
vous
c'est vrai.
Croyez, ça,
mais
oui.
Alors, peut-être
moi, je
pas,
laisse la
peut-être
place
pas
aux générations
années.
Suivantes.
Non. En revanche, ce qui va être possible de façon beaucoup plus rapide, c'est l'eugénisme au sens, ça va être la sélection embryonnaire et la sélection du vivant avant la naissance. Et notre idée est que quand vous aurez des générations entières dans d'autres civilisations que les nôtres qui auront été ingénierées spécifiquement, il va être très difficile pour les parents, ça sera plutôt le cas de nos enfants en l'occurrence, moi j'en ai 4 en bas âge, probablement de les avoir à l'ancienne comme nous on a fait, c'est-à-dire en faisant tourner la roue de la fortune. Il y aura probablement, un peu comme on l'a dit pour le cheval et la voiture, au bout d'un moment, une sorte d'attente sociale, une sorte de d'exigence, de pression qui va faire qu'on va ingénérer nos enfants. Ça me satisfait pas extraordinairement, mais finalement, cette aventure humaine dont on parlait, qui a été d'abord l'aventure de surmonter les limites dans un monde qui était cruel et difficile, d'arriver à surmonter les contraintes. Elle est aujourd'hui au 21e siècle, elle a changé d'état, les règles ont changé. Un, c'est évidemment maîtriser notre maîtrise, et deux, c'est nous autodiscipliner dans un monde où les contraintes ont disparu. Voilà. Et c'est ça en fait la différence, et je crois pas que ça remette en cause le but de l'être humain, ou peut-être son espèce de destin, qui est de se chercher lui-même en permanence, alors qu'il n'y a pas vraiment de lui-même, et qu'il n'y a pas d'aboutissement de ce que nous sommes. Et je crois que cette aventure humaine, elle continue, mais elle continue avec des règles qui ont juste changé, d'un point de vue écologique, comme du point de vue de notre rapport à l'effort, à l'effort intellectuel, à notre construction de nous-mêmes.
Ce qui change, ce ne sont pas les idées et les fantasmes, ce sont les moyens. Dédale avait raison de chercher à s'échapper du labyrinthe et avait raison de dire à son fils Icare de ne pas trop s'approcher ni de l'eau ni du soleil. Et Icare, imprudent, s'est écrasé. Vous évoquez à un moment, vous dites, nous sommes dans un moment Frankenstein. Oui. Mais Victor, le docteur Frankenstein, aurait mieux fait de ne pas aller au bout de son fantasme de créer la vie à partir de mon morceau de cadavre. Il aurait mieux fait de s'arrêter à temps, et nous ferions mieux de nous arrêter à temps, nous qui sommes tous des petits Victor Frankenstein, ou plutôt des disciples, des suiveurs, des esclaves peut-être, des Frankenstein 2 ou 3.0 d'aujourd'hui. Et sur le transhumanisme, parce que vous assumez, et ça je vous en remercie, ce que beaucoup ne voient pas, que l'IA c'est du trans ou du post-humanisme oui. appliqué. Et je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté, ils le reconnaissent tous les patrons de Google, de Facebook et compagnie. Et donc par exemple, là où il me semble que c'est un point important, vous écrivez par exemple, l'IA inaugure l'économie transhumaniste et l'eugénisme, la sélection, la disqualification des improductifs, des lents, etc. par le fait même. Et la page suivante, vous écrivez « La vision de Sam Altman d'une humanité prospérant dans tout l'univers grâce à ChatGPT et ses successeurs est la seule issue raisonnable ». Donc là, si vous voulez, c'est vraiment, il n'y a pas d'alternative. Et je ne peux que me porter en faux à cela. Mais bien sûr que si, qu'il y a d'autres issues raisonnables. Et je dirais, c'est une folie, une fuite en avant, destructrice, autodestructrice, suicidaire, éco-suicidaire et suicidaire. Et bien sûr qu'il y a non seulement d'autres issues possibles, désirables, raisonnables, mais à vrai dire, je m'oppose en faux à ça. La folie, la déraison, c'est la fuite en avant technologique.
Fuite en avant technologique, mais... Nous sommes déjà dedans, et ce que je constate aussi, c'est que l'intelligence artificielle est entrée dans nos vies au travers de la conversation. Il y a de plus en plus de gens qui discutent avec ChatGPT, qui demandent conseil à ChatGPT. L'intelligence artificielle devient compagne ou compagnon. Alors, que penser de cela? Va-t-il y avoir une nouvelle histoire de l'amitié? Qu'est-ce qu'une amitié avec une machine? Qu'est-ce qu'une conversation? Est-ce que ça reste encore la conversation selon Montaigne, hein, qui dit qu'il préfère la conversation à toute chose, parce que, justement, c'est le plus noble exercice de notre esprit. Est-ce que ça aura encore un sens à l'ère de l'intelligence artificielle? Olivier Babeau.
D'abord, pour répondre à Gauthier sur Frankenstein, moi, je prendrais plus l'image de l'IA, c'est une tour de Babel qui a réussi. Pardon, Icar, vous parliez de Icar. Voilà, c'est une tour de Babel qui a réussi. C'est très intéressant la façon, la rapidité et la puissance avec laquelle les gens aujourd'hui, en très grand nombre, utilisent déjà l'intelligence artificielle comme un interlocuteur. Un interlocuteur à qui vous allez confier d'ailleurs souvent vos états d'âme, une sorte de d'ami. Évidemment, l'enjeu ici, et plus que jamais, c'est aussi de défendre, et je suis le premier défenseur de ce que j'appelle le loisir pour les autres, c'est-à-dire le moment où nous existons en tant qu'êtres humains dans notre rapport aux autres êtres humains. Et c'est sans doute quelque chose qui, même avant l'intelligence artificielle, à travers le dévoiement de nos usages des loisirs avait été dégradé, parce que on voit d'ailleurs depuis le Covid, les gens sont plus, les jeunes en particulier, sont plus sédentaires, voire moins leurs amis en vrai, ont moins d'échanges en vrai, et nous sommes dans un monde qui isole là où il prétend nous mettre en relation. Et il est possible de se battre contre ça, mais c'est de plus en plus difficile. D'ailleurs, j'ai parlé avec un ami du CNRS qui me disait, mais aujourd'hui, je parle plus à ma machine parce que c'est plus intéressant qu'à mes collègues. Moi-même, je l'humanise pas beaucoup, l'intelligence artificielle, mais je l'utilise énormément. C'est mon professeur de tout. Je prends la voiture, j'écoute soit des podcasts excellents, comme ceux de France Culture, soit je discute avec la machine. C'est-à-dire, j'en profite pour lui poser les questions que je me pose depuis longtemps, ou des précisions historiques ou scientifiques.
Est-ce que, justement, je cite vraiment exactement Montaigne, « Le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, c'est à mon gré la conférence, c'est-à-dire la conversation. J'en trouve l'usage plus doux que d'aucune autre action de notre vie, et c'est la raison pourquoi, si j'étais forcé de choisir, je considérerais plutôt de perdre la vue que l'ouïe ou le parler. » Et il ajoute, quand on m'en contredit, on éveille mon attention, non pas ma colère, je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit. La cause de la vérité devait être la cause commune à l'un et à l'autre. Est-ce qu'on retrouve ça avec ChatGPT?
Regardez, le succès incroyable des réseaux sociaux ont montré effectivement la passion des gens pour l'échange. On voit même encore la façon dont le temps qu'on peut passer à mettre des commentaires, à échanger avec des inconnus. Finalement, tout ça est une façon de satisfaire notre besoin naturel de parler, d'échanger, de bavasser. Les psychologistes évolutionnistes expliquent que ce besoin est la conséquence d'un monde qui était autrefois extrêmement dangereux, et on échangeait énormément de conversations. C'est ce que dit Jared Diamond d'ailleurs. On échange beaucoup d'informations, on adore discuter, bavasser parce que ça fait partie de ce qui nous rend le monde compréhensible et maîtrisable. Donc on a ce besoin en nous. Ce besoin, il va être en partie satisfait dans le dialogue avec la machine. Évidemment, l'enjeu est toujours le même. Est-ce que ça vient au détriment de rapport avec les autres? De la même façon que malheureusement, les parents qui sont trop sur les écrans ont moins d'échanges avec leurs enfants. Ça veut dire que c'est très difficile. Oui, il faut une autodiscipline formidable aujourd'hui pour continuer à guider ses enfants dans la compréhension et dans le partage, enfin l'utilisation du numérique, et pour garder le meilleur de ce qui nous fait être humain. C'est difficile, mais ça n'est pas impossible.
Oui, alors l'échange vire quand même de plus en plus souvent à l'invective pure et dure, hein, à l'insulte, hélas.
Et sur les réseaux sociaux.
Notamment, mais même dans les interactions qui restent humaines. Par ailleurs, on est dans une société où la solitude explose. Donc effectivement, ChatGPT sera toujours là pour vous caresser dans le sens du poil, mais en fait, vous parlez à travers votre agent conversationnel, vous parlez à une infrastructure capitaliste possédée par des gens qui ont un projet très clair et encore une fois qu'ils assument. C'est ça le plus extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment faire une race de seigneurs et vous enfermer dans des bulles. C'est une forme de domination, pardon. Et vous citiez la question des sens, mais nous perdons aussi le sens du toucher. Et Rémi Brague explique que c'est le seul sens dont la perte signifie la mort, le toucher. Or, effectivement, à part effleurer des écrans, qui n'est même pas une véritable pression, nous touchons de moins en moins l'épaisseur des choses. Nous vivons vraiment en extraterrestre. L'exemple le plus simple, c'est que voilà, les enfants, pour ne pas salir, pour ne pas prendre des risques, etc., sont enfermés dans des cages virtuelles devant des écrans, pour le dire simplement, et sont de moins en moins en contact avec la matière, la rugosité de la matière. Et justement, un jeune essayiste, Baptiste De Tombe, qui a publié un livre qui s'appelle « L'homme démantelé », et donc l'IA, effectivement, nous écartèle, nous mutile de nos sens, non seulement de notre intelligence, non seulement de nos relations, mais même de nos sens physiques.
Bien, merci beaucoup. Malheureusement, c'est une domination où les hommes trouvent leur compte. Enfin, en tout cas, cette discussion était passionnante. Je rappelle, Olivier Babeau, que vous avez écrit avec Laurent Alexandre « Ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA » chez Buchet-Chastel. Gauthier Besse, « La vie machinale, pourquoi et comment résister à l'IA ». Ce livre est publié aux éditions des Clés de Brouwer. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La banlieue hier et aujourd'hui ». Mes invités seront Nora Hammadi et Alexandre Devecchio. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Sébastien Huel.